Prologue. Le fracas de la tôle contre le bitume résonne dans ma tête, tandis que mon corps ne paraît plus capable du moindre mouvement. Que se passe-t-il? Où suis-je? Au prix d'un immense effort, j'arrive à entr'ouvrir les yeux. Le soleil m'aveugle. Les instants précédant le chaos me reviennent. La dispute. Mon départ précipité en voiture. Le téléphone qui ne cesse de sonner, que j'attrape sur le siège passager. 2 secondes d'inattention qui me dévient de ma route. Violent coup de volant pour éviter le véhicule d'en face. Perte de contrôle. L'arbre. Choc dans un bruit apocalyptique de tôles compactées et de verres brisés. Ma tête heurte le pare-brise. Une douleur terrible au ventre. Puis le trou noir. Pourquoi avoir décroché alors que je roulais si vite? J'entends un gémissement. Lointain. Vient-il de ma bouche? Le temps se fige. Les bruits aussi. Une voix de femme me parvient, assourdie, douce, tremblante. Je cligne des paupières pour chasser le voile rouge qui m'encombre les yeux. Je n'aperçois tout d'abord qu'un halo rose. Juste en dessous, un visage, tendu vers moi, bouleversé. Pourquoi cette femme pleure-t-elle? J'aimerais pouvoir la rassurer d'un sourire, mais je suis incapable du moindre geste. L'inconnu attrape son chapeau, le col sur sa poitrine et marmonne des mots que je ne comprends pas. J'entends d'autres voix. J'ai beau me concentrer, je n'en reconnais aucune. Je referme les yeux. Un bruit de sirène au loin. Ce doit être grave. Le visage d'une petite fille danse derrière mes paupières closes. Philomène, que fais-tu à cet instant précis? Je donnerais n'importe quoi pour être ailleurs et te serrer dans mes bras. Je t'appelle en pensée, de toutes les forces qu'il me reste. La voix de la dame au chapeau rose me ramène à la réalité. J'éprouve une sensation bizarre dans la poitrine, comme si on enserrait mon cœur dans un étau avant de relâcher brutalement la pression. Pourtant, je n'ai plus mal. Je ne ressens même rien. C'est comme si tout mon corps était anesthésié. Je réussis à porter la main à mon ventre. Quel est ce liquide chaud qui glisse entre mes doigts? Je ne sais comment j'arrive à lever le bras au-dessus de ma tête. Ma paume est couverte de sang. Je dois prévenir Benoît. Cette femme va m'aider à le faire. Elle va lui dire de venir et il sera bientôt là pour me prendre contre lui. Mais combien de temps mettra-t-il à me rejoindre? Et ne va-t-il pas paniquer? Non. Il vaut mieux que je retourne à la maison. Oui, je dois absolument rentrer chez moi. Même truc bizarre dans ma poitrine. J'ai du mal à respirer. Je m'accroche au regard de l'inconnu. J'y perçois une lueur d'épouvante. Après bien des efforts pour relever la tête, je découvre une large flaque rouge à hauteur de mon buste. Mon Dieu, tout ce sang est-il le mien? J'essaie de m'appuyer sur mes avant-bras pour m'asseoir. Sans succès. Ma tête ne commande plus mon corps, mais la flaque sous moi s'agrandit. Je suis terrifié. Je ne peux pas, je ne veux pas, je ne dois pas mourir. Qui s'occuperait de ma petite Philomène? Qui la protégerait? Comment va-t-elle grandir sans moi? Non, il n'est pas question d'abandonner ma fille. Ces satanées sirènes hurlent de plus en plus fort. Mais quand ces fichus secours arriveront-ils? Je referme les yeux et prie pour qu'il ne soit pas trop tard. Le visage rassurant de Benoît virevolte dans ma tête. Je donnerais cher pour qu'il me prenne dans ses bras. D'ailleurs, que va-t-il penser de ma présence ici? Impossible de partir sans pouvoir lui expliquer. Et ce bruit insupportable. Y a-t-il donc personne pour faire taire ces sirènes stridentes? Elles me déchirent les tympans, m'empêchent de réfléchir. 2 hommes en uniforme se penchent sur moi. Enfin, je crois bien qu'ils me parlent. Mais qu'essaient-ils de me dire? Je m'aperçois que je me suis instinctivement cramponné à la femme au chapeau rose. Si elle pouvait chercher mon sac à main, il doit être à quelques pas sur le siège avant de ma voiture. Dedans, elle trouvera le numéro de Benoît. Est-ce que j'ai une chance de m'en sortir? J'essaie de parler à mon tour. Seules les gargouilles s'échappent de mes lèvres et du sang coule de ma bouche. Est-ce cela mourir? Je pense à ma mère, à mon père. J'aimerais qu'ils soient à mes côtés, eux aussi. Je bouge à nouveau la tête. Je vois un tas de tôles, des fragments de verre partout, et tout ce rouge sur le bitume. Il n'existe sans doute plus de siège avant. Ils ne retrouveront jamais mon sac à temps. Je suis désespérément seul, loin de ceux que j'aime. J'ai envie de pleurer, de chagrin, de regret, de peur. Je n'ai que 41 ans. J'ai froid, si froid. Je sens pourtant les rayons du soleil sur mon visage. Enfin, je crois. C'est tout de même curieux que je n'ai mal nulle part alors que je suis couverte de sang. C'est peut-être mieux que Benoît ne soit pas là. Comment imposer ça à quelqu'un que l'on aime ? Une image douloureuse s'impose à moi, celle d'une autre femme que moi dans ses bras. M'oubliera-t-il un jour ? Pourra-t-il en aimer une autre autant qu'il m'aura aimé moi ? C'est un futur dont je ne veux pas. Je veux retourner près de lui et près de ma fille, reprendre mon histoire là où je l'ai interrompue ce matin. La femme en rose essaie de dégager doucement sa main, mais je m'agrippe à elle. Je ne l'ai jamais vue de toute mon existence, mais à cet instant, elle représente pour moi la seule ancre qui me retient encore à la vie. Pourquoi ces hommes en uniforme ne partent-ils pas ? J'ai bien compris qu'ils ne pouvaient plus rien pour moi. Pardon, Benoît. Pardon, Philomène. Je n'ai rien voulu de tout ça. Dire qu'il y a encore une heure, je pensais que nous avions la vie devant nous. J'ai chaud. C'est sans doute la couverture que l'on a posée sur moi. Non. J'ai plutôt l'impression que l'on vient de me recouvrir d'eau tiède. C'est presque agréable. Je vois l'un des deux hommes me maintenir le visage et me fixer droit dans les yeux. Ce doit être un pompier. Il a l'air si jeune. Je crois qu'il crie, mais je n'entends plus rien. Tous les bruits se sont tus. J'ai l'impression de m'enfoncer dans du coton, d'être sur le point de m'évanouir. Mon regard glisse vers l'inconnu au chapeau rose dont la main est toujours nouée à la mienne. Cette femme ne saura jamais combien je lui suis reconnaissante d'être restée près de moi. Elle se penche à nouveau. C'est peut-être ma dernière chance de lui laisser un message pour Benoît et Philomène, mais aucun filet d'air n'entre plus dans ma gorge. Je t'aime, Philomène. Je t'aime, Benoît. Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment parlé. Je me sens brusquement aspiré. Pardon. Il va falloir être courageux. Une dernière pensée d'amour pour ma fille, pour Benoît, pour mes parents. Par ma faute, tous quatre vont être écrasés de chagrin. S'ils savaient combien je le suis moi-même, à ce moment précis. Chapitre 1. Le front appuyé contre la fenêtre de sa chambre, Philomène laissa son regard se perdre dans le flot incessant des véhicules qui allaient et venaient sans relâche sur le boulevard situé au bout de la rue. De loin lui parvenaient quelques bruits de la cuisine, où son père se préparait un café avant de partir travailler. 52 jours que sa mère les avait quittés, dont plus de la moitié passait à osciller entre admettre son décès et s'accrocher à l'espoir qu'elle ne soit pas morte. Aujourd'hui, elle avait bien intégré que sa mère était décédée. En la perdant, elle avait perdu le goût de vivre, et plus le temps passait, plus il lui fallait trouver un responsable à cette mort prématurée, pour comprendre l'intolérable, pour ne pas avoir à se focaliser sur l'absence, le manque et la douleur, pour enfin décharger sa peine et sa colère sur quelqu'un. Mais que pouvait-elle faire seule ? Elle aurait aimé parler de tout cela avec son père, Benoît. Mais comment partager ses doutes et son chagrin avec quelqu'un qui lui mentait ? Car elle en avait aujourd'hui la certitude, son père lui cachait quelque chose. Le mot « suicide », entendu lors d'une conversation téléphonique avec la psychologue qui l'avait obligée à consulter, l'avait confortée dans cette idée. Elle s'était au début demandé s'il n'avait pas peur qu'elle-même ne commette une folie. Mais depuis quelque temps, une autre question, plus insidieuse, tournait en boucle dans son esprit. Sa mère aurait-elle pu choisir de mettre fin à ses jours ? La simple évocation de cette possibilité la torturait. Elle allait quitter son poste d'observation quand elle se sentit foudroyée sur place. Une Polo orange, identique à celle de sa mère, venait de s'engager dans la longue avenue menant jusqu'à son immeuble. Dans un espoir insensé, elle ouvrit en toute hâte la fenêtre et arrima son regard à l'automobile, une main posée sur sa poitrine. Et si là, elle s'arrêtait ? Mais la petite voiture poursuivit sa route, tandis que les yeux de Philomène restaient désespérément rivés sur elle, et que son cœur se serrait comme une éponge.